bonjour à tous. Il est midi sur France Culture. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite les titres du journal de 12h30 avec vous, Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La guerre en Syrie, vous venez de l'entendre à l'instant, dure depuis une demi-décennie, 5 ans maintenant. France Culture y consacre une large part de son antenne aujourd'hui. Et notre journal de la mi-journée n'y fera pas exception avec nos reporters qui reviennent de Syrie, Valérie Crova, Omar Waman. Ils sont allés par exemple à 40 km au nord de Raqqa, le fief de l'organisation État islamique. Vous entendrez ce reportage exceptionnel. Vraiment, je vous invite à revenir à 12h30 pour ce long format d'Omar
Waman. Moi, je ne bouge pas, promis.
Vous, c'est sûr, vous serez là. Je n'en doute pas. Et Valérie Crova, évidemment, aussi, qui nous présentera ce soir à 17h le magazine de la rédaction. Bref, on va faire le point. Ce sera vraiment une très très longue page de ce journal. On aura aussi Kamal Redouani, un journaliste, auteur du livre Inside Daesh. Et puis, dans la deuxième partie de la Grande Table, Caroline, toujours sur ce sujet, évidemment.
Nous recevrons l'ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, qui discutera avec le spécialiste des relations internationales, Bertrand Badi.
Et puis notre journaliste Véronique Rebérotte viendra nous parler d'un autre triste 5e anniversaire. 5 ans après l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, ces images qu'on a encore tous en mémoire aujourd'hui encore, des secteurs entiers restent interdits du fait des hauts niveaux de contamination. On parlera des habitants de ces riverains. Et puis dans l'actualité de ce vendredi matin en France, Manuel Valls rencontre les organisations de jeunesse pour discuter de la future loi travail. Les étudiants de l'UNEF, de la FAGE, les lycéens, de la FIDEL, de l'UNL, du SGL. Nous ferons le point sur ces discussions avec Anne Fauquemberg. À tout à l'heure, midi et demi.
À tout à l'heure, Ludovic Piétenu. Et nous ouvrons cette émission en émission spéciale lors de cette journée spéciale consacrée à la Syrie et à cette guerre qui change le monde. Nous sommes en compagnie, pour commencer, d'une figure de l'opposition au régime de Bachar al-Assad. Elle est journaliste, romancière, elle est réfugiée en France depuis 2011. Elle a risqué sa vie pour témoigner de ce qui se passe en Syrie depuis 5 ans. Son livre paraît ces jours-ci en français. J'ai le grand plaisir et le grand honneur de recevoir Samar Yazbek. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Personne n'écrivait sur l'héroïsme quotidien des Syriens, ni sur la façon dont ils transformeraient le pays. Eux-mêmes demeuraient indifférents aux slogans et aux paroles choc. Ces gens dont je rapportais la vie étaient en train de transformer la mienne, ici même, sur cette petite route poussiéreuse flanquée de maisons qui n'avaient pas résisté aux frappes, où l'herbe poussait entre les pierres. Eux, les anonymes ignorés de tous, qui risquaient leur vie pour aller à moto acheter 3 galettes de pain et qui affrontaient au quotidien les obus sifflant au-dessus de leur tête, les avions détruisant leurs maisons, brûlant leurs champs et leurs vergers. Ils se réveillaient chaque jour, heureux d'être encore en vie. Ils menaient une existence simple parmi les ruines, les oliviers et les figuiers. Aussi sûrement que le jour succède à la nuit, ils grandissaient, enfantaient et mouraient, sans faire de bruit. Une vie à toute vitesse.
Merci à vous, Rania Samara, d'avoir lu un extrait du livre de Samar Yazbek, Les Portes du Néant, que vous avez vous-même traduit, qui paraît aujourd'hui aux éditions Stock, et c'est vous qui allez assurer l'interprétation simultanée de ces propos. C'est un livre, Samar Yazbek, dont vous nous aviez annoncé la parution lors de votre dernière venue en octobre dernier. Vous étiez venu d'ailleurs une première fois aussi au micro de la Grande Table en avril 2012. Un peu avant de repartir, justement, faire ce premier voyage en Syrie, puisque vous êtes retourné 3 fois en Syrie, en 2012, en 2013. On l'entend bien là, pour témoigner de ce qui s'y passe. Vous êtes arrivé en France, réfugié, en 2011, et vous avez commencé à consigner tout ce que vous aviez vu jour après jour, quand vous aviez fait parler les Syriens avant de partir, puisque vous aviez déjà écrit un livre qui était un journal des premiers mois de la révolution, Feu croisé. Quelle est la place de ce livre, Les portes du néant, par rapport à Feu croisé, qui décrivait déjà la peur, les doutes, la violence, les chabiyas, c'est-à-dire ces milices de Bachar al-Assad qui sèment la terreur, la torture, les enlèvements. Pourquoi vous avez éprouvé cette urgence de retourner dans le pays pour faire ce livre aussi ?
يعني بداية لما رجعت أنا على سوريا ما كنت حقيقة مفكرة أنه أنا بدي يكون عودة مؤقتة.
Quand je suis revenue en Syrie, je ne pensais pas que ça allait être un retour un retour provisoire. Je pensais que j'allais vivre dans le nord de la Syrie, que j'allais rester. Et donc, je ne pensais pas écrire ce livre.
تقريبا نهاية 2013 كانت ظهرت داعش في
شمال سوريا. Vers la fin 2013, داعش est apparu dans le nord de la Syrie et je ne pouvais plus rester dans le pays. Donc je suis restée à Paris et j'ai choisi de ne plus retourner en Syrie. Et c'est alors que j'ai sorti toutes les notes que j'avais prises et toutes les rencontres que j'avais notées pour en faire un livre. Il y avait aussi, j'avais une autre hantise et j'avais envie d'écrire pour les journaux, de témoigner dans les journaux de ce que j'avais vu et vécu. Nous sommes, je voulais témoigner en tant que journaliste, en tant qu'intellectuel, de ce qui se passait dans le pays.
بس جينا لوقت بدأ يتحول الأمر ل يعني كتير كتير كانوا الصعوبة إنه نبقى هنيك فلذلك قررت أكتب هالكتاب.
J'ai décidé d'écrire ce livre lorsque j'ai constaté que il était impossible de rester là-bas d'écrire pour porter la parole de ceux qui n'avaient pas de voix, les gens ordinaires dont on entend parler, dont les médias n'entendent pas parler. Il y a une grande différence entre Feu croisé, mon premier livre, et celui-là, parce que le Feu croisé, c'était ma propre voix, tandis que ce livre-ci, c'est la voix de tous les gens, de tous les gens simples du pays.
Tous les gens simples du pays que vous avez rencontrés, avec qui vous avez discuté, avec qui vous avez vécu là-bas, en particulier dans une ville, la ville de Sakareb, qui est très présente dans les portes du néant, Samar Yazbek. Et ce livre est fait d'un mélange entre les récits de ces personnes que vous avez rencontrées et que vous avez vues pendant des mois en vivant avec eux, avec des entretiens que vous avez menés. On se demande comment vous avez fait sur place, parce que vous vivez avec eux, mais vivre avec eux en 2012, en 2013, c'est vivre avec les bombes qui vous tombent dessus, avec les enlèvements. Vous assistez au centre des médias à l'enlèvement sous vos yeux d'un journaliste polonais, Martin. C'est vivre avec le quotidien de la mort. Donc oui, vous leur donnez la parole, mais quand même, on se demande comment vous avez fait.
Yani, مثلي مثل أي سوري كنت.
J'étais à la star de tout Syrien. Je vivais comme tous les citoyens syriens.
Et
je suis toujours convaincue que la Syrie serait un pays libre, sans communautarisme, mais seulement avec la citoyenneté syrienne. Et les dangers que je vivais étaient les mêmes que les autres vivaient. Je suis une partie, une part de tous ces gens-là. Je ne faisais rien d'exceptionnel. Je vivais exactement comme eux et c'était tout à fait ordinaire pour moi. Premièrement, par ailleurs, au cours de ces visites qui étaient provisoires et malheureusement, je savais très bien que je ne pouvais pas rester. Avec les gens que j'ai côtoyés, nous mettions en pratique notre idée de la révolution civique qui est maintenant tout à fait détruite, notre pensée de la révolution. Lorsque les avions bombardaient les maisons et les civils, lorsque les intégristes et les djihadistes entraient par s'infiltrer par les frontières, je voyais cela avec eux et comme eux. Comment convaincre les gens qui ont payé le prix fort de la révolution? Comment je pouvais les convaincre de la véracité et de l'authenticité de mon point de vue si je ne vivais pas exactement comme eux en tant qu'intellectuel et en tant qu'écrivain? En fin de compte, nous avons échappé à la mort. Et moi, je voulais faire partie de leur destin.
Mais ce qui est difficile, et on le lit dans le livre Samari Azbek, c'est que malgré tout, les Syriens là-bas, comme vous témoignez de leur vie et de leur mort, ils vous donnent un statut particulier. Et vous dites que ça n'était pas simple, parce que vous, vous vouliez être avec eux, et eux, ils voulaient souvent vous mettre à l'abri. Parce qu'ils vous faisaient jurer d'écrire pour témoigner. Il vous disait « Promets-moi que tu vas écrire ». Et donc vous ne pouviez pas mourir pour eux. Parce que si vous mouriez, alors le monde entier ne pouvait pas connaître le sort qui était le leur. C'est très particulier ça quand même.
Cela fait partie de la tragédie, du conflit que je vivais au fond de moi-même. Surtout en ce qui concernait les vieilles femmes. Chaque fois que je pensais que je les trahissais, si je partais, elles me cachaient chez elles, qui étaient analphabètes et qui s'inquiétaient pour moi et qui voulaient m'obliger à partir pour que je puisse transmettre leur vie et elles me suppliaient de raconter leurs histoires et que si moi je venais à mourir, qui est-ce qui allait transmettre leur histoire? C'était pour moi une sorte de rôle, une sorte de mission. Mais malheureusement, je suis partie, j'ai échappé à la mort, mais je les ai laissés à leur sort mais tragique et misérable. C'était très très difficile pour moi. Je ne suis que le canal par le biais duquel je voulais transmettre l'injustice sous laquelle ils vivaient. Ce grand peuple qui est sorti dans des manifestations pacifistes et qui voulait chercher c'est un complot international et c'est une violence terrible qui a détourné leur révolution. Et c'est tout je donne tort à tout le monde qui a transformé cette révolution pacifiste en guerre religieuse. Et après l'ouverture des frontières, Daesh a entrepris exactement à transformer notre révolution en guerre nihiliste entièrement.
Samar Yazbek, vous dites que ces manifestations pacifistes du début, d'il y a 5 ans, en 2011, se sont transformées en une guerre nihiliste, en une guerre de religion. Ce qu'on voit très bien dans votre livre, dans Les Portes du Néant, c'est cette évolution des choses, ce que vous appelez le rêve avorté. C'est-à-dire ce que les Syriens vous racontent, ce que tous les Syriens que vous avez vus vous disent, la façon dont la révolution pacifiste et démocratique au début a dégénéré, la façon dont la religion, ou même les religions, se sont progressivement immiscées dans cette révolution. Et puis, puisque vous avez voyagé clandestinement en 2012, puis en 2013, la façon dont les partisans de Bachar, au fur et à mesure, se sont vus adjoindre des djihadistes de Daesh. Ce qu'un jeune d'ailleurs résume ainsi dans votre livre à un moment, on a réussi à se débarrasser d'Assad et on se retrouve avec les djihadistes. Sauf qu'en 2016, Samar Yazbek, les Syriens se retrouvent avec les deux. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser d'Assad et ils ont les djihadistes en plus. On voit très très bien cette évolution lors de vos voyages parce que ce sont les Syriens qui vous disent ça et ce que vous constatez vous-même. C'est le plus important pour vous dans les 5 ans qui se sont passés, la façon dont les choses ont été confisquées.
هذا مهم بالنسبة لذاكرة الضحايا أولا.
C'est très important pour la mémoire des victimes.
يعني لأنه في تقريبا عنا نصف مليون ضحية.
Il faut pas oublier que nous avons presque un demi-million de victimes.
لازم نكون صوتهم نعيد.
Nous les faisons revivre. Nous faisons revivre une partie, un pan de l'histoire de la Syrie et de ses Syriens pour arriver à ce point maintenant, pour constater que nous sommes sortis contre le régime de Assad et nous avons fini entre les deux. Nous étions devant un monstre, face à un monstre. Maintenant, nous devons affronter deux monstres. C'est absolument nécessaire d'expliquer cela parce que connaître l'autre, entre l'Occident et l'Orient, surtout la Syrie, la connaissance de l'autre est un moyen de disloquer la haine et de disloquer le mal, de démanteler le mal et les outils du mal. C'est aussi, pour moi, mon objectif était un moyen de combattre le terrorisme et de combattre l'intégrisme. L'Europe, l'Occident ne comprend pas comment Daesh a prospéré dans notre région. Mais ça, c'est une manière d'exposer comment ils sont arrivés et comment ils ont pris le pouvoir. Ça veut dire dans le pays où nous n'avons pas des droits de l'homme, où il n'y a pas d'enseignement, où il n'y a pas d'évolution, mis à côté d'une présence d'une très grande violence exercée par le régime despotique, ajouter à cela le silence parfait du monde, de la communauté internationale face à tous les crimes commis par le régime et pour la dictature, tout cela, on en a besoin pour expliquer comment les choses se sont passées. Si nous comprenons cette situation, nous pouvons exactement démanteler et comprendre comment Daesh a pris le pouvoir. À côté de cela, il ne faut pas oublier l'intervention russe, l'intervention iranienne. Le peuple syrien subit un véritable génocide. Ce génocide est mené par plusieurs côtés à la fois.
Mais Samari Azbek, parfois on entend dire aujourd'hui, en particulier depuis la montée de Daesh dans le monde en général, que la priorité est la lutte contre Daesh. Vous nous faites comprendre que non, la priorité, ça reste la lutte contre Bachar al-Assad. Qu'en luttant contre Bachar al-Assad, on arrivera à terme, ensuite, à éradiquer Daesh.
يعني في 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 مشكلة هلا يعني في الإشكال الحقيقي إنه نحكي بالأمرين كحدثين منفصلين.
Il faut séparer les deux événements. C'est vrai qu'ils se ressemblent, mais nous devons sérier les problèmes. Pour moi, Daesh n'est pas seulement effrayante, mais c'est le mal premier dans le monde entier. En tant que citoyenne, en tant que femme, c'est mon ennemi premier, Daesh. Mais si, sous le prétexte de démolir Daesh, nous sommes en train de mener une guerre entière, tout en laissant libre celui qui a créé, qui a composé Daesh, c'est le régime et ses acolytes. Il faut réfléchir avec intelligence et nous dire qu'une partie de la guerre contre Daesh, c'est qu'il faut que le régime syrien, à côté d'une solution militaire, il faudrait aussi que Assad puisse dégager, qu'il puisse partir pour que nous puissions entrer dans une période de justice sociale. Il faut absolument pas considérer qu'il faudrait réhabiliter Daesh comme s'il était une aide et un soutien à la guerre contre Daesh. Je suis très scientifique en pensant qu'on ne peut pas utiliser le régime et la dictature comme soutien pour nous débarrasser de Daesh. Il faudrait aussi considérer que nous sommes chaque jour face à des massacres quotidiens. Le problème...
Nous avons
des brigades extrémistes qui gèrent des régions syriennes et qui ne veulent pas que la Syrie soit un pays unique, un pays unifié que nous voulions au début de la révolution. La question est très importante. Nous avons besoin d'en parler clairement. Nous avons bien sûr peur de Daesh, mais pour comprendre comment il faut nous en débarrasser, il faut comprendre comment ce mouvement est né et comment il a pris le pouvoir petit à petit.
Samar Yazbek, on entend la façon dont vous parlez, c'est aussi la façon dont vous donnez la parole à tous ces Syriens dans les portes du néant. C'est cette voix d'une femme libre, d'une femme intellectuelle, d'une femme rationnelle, d'une femme extrêmement courageuse, qui aime naturellement, ça ne nous surprendra pas, celle qu'on entend là chanter. J'ai veillé toute la nuit, c'est Asmahan, chanteuse et actrice née au Liban en 1912, morte en Égypte en 1944, qui fut une icône, un temps détrônée par Fairouz et même la grande Oum Kalsoum, et qu'on redécouvre aujourd'hui. Samar Yazbek, en 2013, vous écrivez que quand vous pensez à la Syrie, vous voyez un corps démembré, des morceaux épars, décapités, le bras droit à moitié arraché, des gouttes de sang tombent hors du cadre, aussitôt absorbées par la terre. Vous ne pouvez plus, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, voir la Syrie de votre enfance, et vous ne croyez plus qu'un jour vous pourrez voir la Syrie redevenir celle que vous avez connue.
Je veux être réaliste, ne pas donner un faux espoir. La situation est terrible en Syrie. Je pense que tous les Syriens ont perdu une partie de leur enfance, une partie de leur rêve. Mais quand même, j'essaye de réfléchir, d'être rationnel et de réfléchir avec la tête froide et le sang chaud. Nous sommes devant un problème très grave. La Syrie vit une période de division dans la société syrienne et il est très difficile, il est presque impossible de voir qu'elle redevienne telle qu'avant. Mais quand même, c'est un rêve. Nous aimerions que le rêve se réalise et que nous puissions revenir dans notre pays.
Merci beaucoup, Samar Yazbek. Les Portes du Néant est un livre à lire, comme le dit dans sa préface Christophe Boltanski. Ce livre appartient à la littérature du désastre qui, depuis Varlam Chalamov et Primo Levi, ou plus récemment Ritipan et Jean Hatzfeld, tente non pas de dire l'indicible, mais d'arracher quelque chose au néant, de faire surgir dans les trous noirs de l'histoire un soupçon d'humanité, de capter au cœur de la nuit une petite lumière pareille à celle émise par des astres morts, des lucioles, ou des âmes errantes, sauf que, en général, ces livres sont écrits après que les dictateurs sont partis. Ce n'est pas encore le cas, le rêve est encore là pour la Syrie. Merci beaucoup, et merci pour votre courage, Samar Yazbek. Merci à vous, Rania Samara. Restez avec nous pour écouter, à l'occasion de cette journée spéciale Syrie, la guerre qui change le monde, Jean-Christophe Ruffin, qui propose sur France Culture, toute cette journée, sa chronologie personnelle des événements.
19 mars 2011. Les avions d'une coalition internationale menée par la France et le Royaume-Uni commencent à bombarder la Libye. Finalement, l'action des forces spéciales conduira au renversement du colonel Kadhafi et à son assassinat. Ce n'est pas un hasard si la révolution syrienne ne commence qu'à cette époque. Dans le pays que dirige sans partage la famille Assad depuis près d'un demi-siècle, le régime dispose d'une exceptionnelle puissance répressive. Les opposants et surtout le peuple savent qu'il leur sera impossible de chasser seul Bachar du pouvoir. L'exemple libyen leur donne l'espoir d'y parvenir avec un soutien militaire direct et massif des Occidentaux. L'intervention internationale en Libye a eu un immense retentissement sur la tragédie syrienne. Le régime ne s'y est d'ailleurs pas trompé, et il a envoyé une brigade pour soutenir Kadhafi. Sa mort, en octobre 2011, montre aux Syriens qu'une libération est possible. Et toute la question va désormais tourner pendant l'année 2012 autour du déclenchement éventuel d'une telle intervention en Syrie. Hélas, ce que n'ont pas mesuré les Syriens, c'est que le bilan de l'intervention en Libye est beaucoup plus ambivalent qu'ils ne le croient. Pour les Russes et les Chinois qui se sont laissés embringuer dans une intervention au départ humanitaire en Libye, la leçon est cuisante et ils mettront leur veto sur tout. Pour les Occidentaux, après une brève période d'euphorie, la Libye devient vite un dangereux exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Le chaos s'installe dans le pays, l'armement des arsenaux libyens inonde la région et déstabilise l'Afrique sahélienne, avant d'entraîner un exode dramatique en Méditerranée. Ainsi se noue inexorablement le drame syrien, sur une interprétation radicalement opposée de l'intervention en Libye. À l'opposition syrienne modérée, l'exemple libyen donne des raisons de se battre, d'espérer et finalement de mourir. Aux Occidentaux, l'aventure libyenne donne chaque jour plus de raisons de ne pas agir en Syrie. Ainsi avance et s'enroule la mécanique de cette tragédie moderne. La seule issue, évidemment, sera la mort par centaines de milliers de femmes et d'hommes qui paieront ce malentendu de leur sang.
Jean-Christophe Ruffin a retrouvé toute cette journée spéciale de France Culture, Syrie, la guerre qui change le monde, à retrouver bien sûr sur franceculture.fr et sur le hashtag Syrie 5 ans.